Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 175. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mon collègue
Pascal Plante avec Pod Rémy.
Pas de Rémi, parce que Rémi, on le salue, il est au BIF en ce moment à Bruxelles.
Ouais, au BIF.
Ou ça vient tout juste de se compléter ou je sais pas quoi, mais il y a vraiment pas longtemps, en fait, il y a quelques heures à peine, c'était la première mondiale de l'anthologie Montréal Dead End.
Ouais.
Et dans la foulée également, là, c'était pas vraiment un secret, c'est un secret de polichinelle, on va dire. Là. Mais Fantasia a annoncé officiellement que Montréal Dead End aurait sa première montréalaise.
Ouais.
Ainsi que le prochain film du trio de RKSS, World Kid Superstar, qui nous ont donné Turbo Kid. Là, c'est Summer of 84.
Ouais.
Fait que deux choix évidemment logiques, hein, des deux équipes de réalisateurs qui ont beaucoup grandi avec Fantasia.
C'est ça, pas des grosses surprises, mais on s'en réjouit tout de même, c'est super cool.
Ouais, ouais, c'est super cool. Puis en même temps, ça permet, parce que là, c'est comme la première vraie annonce de Fantasia. En plus, ils ont
le
annoncé
poster,
le poster.
Il est beau, il est cute, il est tout ouais. Kawaii un peu. Là. Ouais,
ouais, c'est super cool. Puis ça permet à plein de sites dans le monde de parler de ces deux films-là. T'sais. Fait que je pense que pour le film de Rémi, Moral d'Eden, c'est quand même cool d'avoir beaucoup de pubs dès le départ. Là.
Rémi et autres, là, quand même.
Rémi et autres,
c'est,
mais...
Rémi ouais. Chapeaute, mais quand même, c'est une œuvre collective.
Ouais, c'est 18 réalisateurs, je pense, là.
Exact, ouais.
Donc, ouais, on a bien hâte de reparler à notre Rémi Fréchette d'amour. Puis toi aussi, Pascal, en fait, c'est drôle, parce que là, on essaie de se pogner des timings pour s'enregistrer, parce que là, dans pas longtemps, tu t'en vas en Argentine, là, pour encore présenter ton film.
Ouais, au BAF ici, Buenos Aires, avec les faux tatouages, toujours. Puis il y en a d'autres aussi, là, qui vont s'enligner. C'est le début d'un... C'est encore, j'ai l'impression, un début de parcours là, pour les faux tatouages. Là. Tiens, pour la petite histoire, je suis quasiment booké jusqu'à l'automne, là, avec des festivals jusqu'en novembre même. Là, il y a des festivals de l'autre fin de l'année 2018 qui nous veulent dans leur line-up. Donc, crée mon... On en profite. Ouais. Que dire de plus, là? Moi, je veux dire, je peux pas aller partout, là, clairement. Je pense que le film voyage plus que moi physiquement. Mais...
Et ça, c'est
moi,
pas
j'y
facile.
Crois de... Ouais, non, je sais. Non, mais j'y crois, moi, de d'être là en personne, puis de tenter le pouls des publics, de différents publics, des publics des fois plus âgés, plus jeunes, de différentes ethnies, veux pas. Ouais, non, moi, c'est comme un peu du savoir, un petit peu, là, de tenter ces différents terrains-là. Puis, outre ça, je veux dire, je suis jeune, j'ai de l'énergie, puis pourquoi pas voyager un peu avec le film. On a travaillé fort, c'est un travail d'orfèvre en solitaire à bien des égards, là, faire un film, surtout rendu en post-production. Donc là, il éclot de sa bulle, et puis je peux un petit peu le représenter comme ça. Je ne m'en prive pas, et voilà.
Voilà, et oui, effectivement. Et plus près d'ici, en fait, c'est également le dévoilement des nominations au prix Iris, le prix du Gala Québec Cinéma, anciennement les Jutras.
Ben oui.
Et dont lequel, il y a Les Faux Tatouages qui récolte une nomination pour la meilleure révélation de l'année pour Rosemary Perrault.
Ben oui, ben oui.
Amplement mérité.
Ben oui, c'est le fun. Non, on est vraiment content. Tu sais, s'il y a bien une chose dont je suis fier de ce film-là, parce que comme j'en parle tout le temps... En marchant sur des œufs, parce que j'ai souvent l'impression d'être le critique le plus critique de mon propre film, au sens où j'en suis très fier, mais le film est né de tellement de contraintes que je ne peux que être devant cet objet-là puis de me dire, d'un, il aurait pu être encore mieux, et de deux, le prochain va être encore mieux, tu sais, comme dirait Edward, là. Well, my next one will be better, ben, je le pense, mais vraiment profondément. C'est-à-dire, j'y enlève rien. Il y a plein de qualités, ce film-là, dans ses imperfections, mais bordel, le prochain, il sera encore mieux. Tout ça pour dire que je suis très content de son parcours et je suis très content de voir Rosemary révélée de la sorte dans la catégorie Révélation de l'année, qui est quand même une catégorie franchement réjouissante. Je veux quand même nommer les autres qui sont nommés avec elle. Ouais. La comédienne qui jouait Megan dans Charlotte Dufun, Romane Denis, super bien, là. Charlotte Dufun, moi, pour vrai, en plus, je l'ai vu, j'en ai pas parlé au podcast. Je pense que c'est un film qui remplit son mandat, là, à défaut d'être excessivement enthousiaste par rapport au film. Je pense quand même que c'est un film qui est réussi pour ce que c'est, vraiment. Donc, Charlotte Dufun. Marine Johnson, dans La petite fille qui aimait trop les allumettes. Ce film-là, OK, ça aussi, on n'en a pas parlé abondamment au podcast. Moi, je suis quand même un des détracteurs du film. C'est un film que, pour plusieurs raisons, je n'ai pas aimé. Je sais que je peux pas juste lancer ça dans l'univers puis pas l'étoffer, là. Puis c'est un peu ce que je vais faire, là. Je me défile, désolé. Mais Marine Johnson, très, très, très méritée, là. Elle qui joue le rôle principal.
Mm-hmm.
Elle a vraiment une bête, cette jeune comédienne-là. Elle a comme un vécu. Elle a quelque chose d'un peu... Elle porte cette espèce de saleté-là. Puis je dis ça, puis c'est pas contre elle. C'est à tout à son honneur. Elle est capable de porter... le poids, le fardeau de ce rôle-là et le côté sombre qui vient avec. Donc, c'est vraiment à son honneur. Bon, Théodore Pellerin, que dire de Théodore Pellerin? Je veux dire, là, il est nommé pour Chien de garde.
Ouais.
Il aurait pu être nommé pour mille autres affaires, là. D'ailleurs, moi, c'est lui que je prédis qu'il va l'emporter, là, pour un peu pour la somme de son œuvre.
C'est ça, c'est que... En plus, c'est ça, moi je vais voter au prix cette année, puis là, ouais. J'ai mes liens pour tous les films, etc. Il y a des films que j'ai pas vus, dont Boost, notamment.
Ouais, mais ouais, qui est bien, je peux en parler un peu après, si on veut,
ouais.
Mais ouais.
Puis tu sais, évidemment, loin de moi, l'idée de comme, tout dire mes prix, évidemment, je dois garder une petite réserve, mais tu sais, cette année, là, je me sens un peu mal pour les faux tatouages, parce que Rosemary Perrault est bonne, là, tu sais, puis c'est vrai que c'est une bonne nomination, révélation de l'année, mais j'ai quand même l'impression que c'est l'année de Théodore Pellerin.
Oui, quasiment
de toutes les catégories, c'est quasiment une de celles que je suis le plus sûr du gagnant. Là,
ben oui, on le sait. Je veux dire... Puis là, moi, je suis pas invité, fait que je vais l'écouter, dans mon salon, là, comme tout le monde, Colin. Mais je vais quand même, évidemment, croiser mes doigts pour Rosemary, mais je pense que entre Marie... je te dirais que je pense quand même... Puis même Nabil Rajo, là, son nom, le comédien qui joue Hakim Noor, il avait quand même gagné meilleur acteur au prix Écran canadien. Hein.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment drôle, là, parce que c'est comme une catégorie qui feel comme une sous-catégorie. T'sais, révélation de l'année, ah ben pourquoi sont pas nommés dans les diverses catégories d'acteurs,
non, mais j'aime ça,
actrices.
Moi, c'est comme au César.
C'est ça,
puis,
oui.
Il devrait avoir ça en plus de festivals, je trouve, ou de plus de galas. Ouais.
Oui. Mais cette année, au Québec, avec la cuvée de films qu'on a, puis on regarde cette catégorie-là, puis non, ce n'est pas une sous-catégorie, même que s'il y a de quoi, c'est une des catégories les plus réjouissantes de notre gala local.
Parce que souvent, je trouve que c'est ça qui est le fun un peu, c'est découvrir la relève, puis ce qui s'en vient. Puis, tu sais, c'est comme, mettons, aux Oscars, là, tu sais, il y avait Timothée Chalamet qui était en nomination comme meilleur acteur. Mais tu sais, on le savait ben trop qu'il aurait jamais une chance en 100 ans, tu sais. Sauf que s'il y avait une catégorie révélation de l'année, ben Timothée Chalamet gagnait ou la main,
ah,
peut-être.
Ah oui, ben oui, c'est ça. Puis révélation de l'année, on aurait eu Brooklyn Prince de Florida Project.
Oui.
Je veux dire, jamais dans 100 ans, tu peux la nommer. Tu sais, elle va pas être meilleure actrice avec Meryl Streep dans la même catégorie. Je veux dire, ça sonne comme un non-sens, puis c'en est un, là, tu sais, on s'entend. Mais de voir justement Brooklyn Prince puis Timothée Chalamet, il me semble que ça aurait été tellement une catégorie réjouissante. Tu sais, il y a comme quelque chose de beau, tu sais, de voir la jeunesse. Tu sais, le cinéma est souvent tourné vers la jeunesse, puis je veux pas faire d'âgisme en disant ça. Je pense que les acteurs d'expérience, puis on veut des histoires qui parlent de toutes les générations, mais de tout temps, les caméras des cinéastes sont tournées vers la jeunesse. Il y a une fougue, il y a une énergie qui se renouvelle, puis qui est enthousiasmante, qui est belle, tu sais. Puis pourquoi pas? Fait que non, révélation de l'année, c'est seulement là depuis l'année dernière. Si je ne m'abuse, là, je pense que c'est une catégorie qui est née avec la refonte du gala, là.
Ouais.
Je pourrais me tromper, par contre, mais il me semble que je me trompe pas.
Mais je crois que ça est meilleure distribution des rôles aussi, comme meilleur ensemble un peu, là,
ouais, c'est ça.
Meilleur casting, dans le fond. Là.
Ouais.
Ça, je me semble, c'est deux nouvelles catégories. Puis,
Exact, oui. Mais tout ça pour dire, donc, ouais, révélation de l'année, c'est une belle catégorie, puis je suis excessivement fier de voir Rosemary là.
Mm-hmm.
Même si, je veux dire, il y a une partie de moi qui pense que la logique veut que Théodore l'emporte, je vais croiser mes doigts jusqu'au bout pour Rosemary.
Ouais.
J'ai un biais très, très assumé.
Ouais. Fait que là, globalement, les nominations aux Iris, quelques tendances qu'on remarque. Ben, tu sais, Robin Aubert a une grosse année.
Oui, Tuk-Tuk et Les Affamés, ça, c'est sans surprise. Je veux dire, il y a une tendance qui est quand même une ouverture vers du cinéma montréalais, québécois, ben, anglophone aussi. Boost, je pense, étant le candidat tout porté, tout désigné. Je veux dire, Boost représente la diversité dans son ensemble, que ce soit au niveau de la langue, c'est un film anglophone, d'un cinéaste anglophone montréalais, mais aussi mettant en vedette deux jeunes comédiens, les deux rôles principaux sont deux jeunes noirs, là, dans le fond, montréalais aussi. Un avec un peu plus d'expérience, un qui est à son tout premier rôle de comédien au cinéma. Puis c'est bien, vraiment boost. Je veux dire, moi, j'ai certaines réserves, mais de le voir bien représenté, somme toute, pourquoi pas, mm-hmm. pourquoi pas.
Ce qui est un peu drôle quand même, on en parlait hors d'onde, puis tu sais, moi, je trouve que c'est mérité, mais Hochelaga, Terre des âmes, qui reçoit quand même, qui reçoit quand même 10 nominations, mais aucune de celles qui compte. Tu sais, ni meilleur film, ni meilleur réalisateur, ni meilleur scénario.
Aucun des interprètes.
Ça en dit long. Ça, parce que c'est un film quand même qui est très, très plate. Mm-hmm. C'est super beau, il y a beaucoup de budget. Puis évidemment, comme mettons les costumes, c'est pas mal assuré que c'est lui qui l'a. Il y a plein de qualités dans le film, mais c'est vraiment un film académique et je dis ça dans le mauvais sens du terme. C'est un peu ça. Ces films-là qui reçoivent que des catégories un peu quasiment pour les artisans, puis moins pour ce que le film est en tant que tel. Là.
Ouais.
Problème d'infiltration, toutes sortes aussi de nominations, ça c'est cool. Même si moi j'avais mes réserves, je suis quand même content qu'un film comme ça. C'est ça, c'est que c'est une année audacieuse, moi je trouve. Je regarde les nominations, puis très peu de films grand public ou très peu de. Tu sais, cette année, tu sais, comme meilleur film, La petite fille qui avait trop les allumettes. Bon, toi, tu disais que t'es pas trop fan, mais quand même.
Non, mais c'est une proposition audacieuse. Ouais. Ça a ses mérites là aussi. C'est évident, là. C'est quand même pas un film aussitôt vu, vite jeté, consommé. Là. Non.
Non, c'est ça.
Il y a une démarche, puis c'est un geste de cinéma. Bon, à tout le moins. Oui.
Puis, tu sais, Shane Gard qui reçoit toutes sortes de nominations, 8 nominations totales, dont meilleur film, dont meilleure réalisation, dont meilleur scénario. Ça, c'est bravo pour Sophie Dupuis et toute l'équipe du film. Ouais. Moi, je ne l'ai pas encore revu, malheureusement, mais j'entends que du bien, donc ça, c'est cool. Puis, en plus, on la connaît bien, donc...
C'est pour ça que, tu sais, rendu là, c'est quasiment des conflits d'intérêts, là, tu sais, de décortiquer certains de ces films-là, puis j'ai l'impression que ça va juste aller de pire en pire, un peu, avec nos carrières respectives, là, tu sais, veux pas, toi, tu vas être voué à connaître de plus en plus de réalisateurs, puis ben, moi aussi, donc... Mais encore là, je veux dire, je pense qu'on s'est jamais trop censuré. Il y a certains films que des fois on décide de pas trop aborder. Le hasard a fait que j'ai pas trop parlé du film de Simon Lavaux, qu'on a pas trop abordé La petite fille qui aimait trop les allumettes. Bon, ça m'a évité de le démonter un peu en public, peut-être. Mais je pense qu'il faut pas non plus se censurer. Moi, je respecte. En tout cas, si tous les cinéastes pouvaient accepter que leur film ne plaît pas à tout le monde puis que c'est pas une attaque personnelle. Si on n'a pas aimé le film de l'un ou de l'autre, je veux dire, je peux rester ami avec l'un ou l'autre et ne pas aimer son film. Pour moi, c'est quand même deux choses très différentes. Mais passons avant de se mettre les pieds dans les plats. Là.
C'est une autre catégorie. Tu sais, je te disais que Révélation de l'année, c'était une catégorie que j'étais pas mal plus sûr.
Ouais.
Je crois que la catégorie que j'ai l'impression que je me tromperais pas cette année si j'avais à faire un poll. Tu sais, je suis tout le temps vraiment pas bon dans ces trucs-là. Tu sais, aux Oscars, j'ai eu, je pense, cette année, 8 bons choix sur 24. Là, tu sais.
Ah ouais, c'est ça.
Mais bon. Et cette année, quand même, la catégorie du film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec. Tu sais, c'est un peu weird parce que d'un côté, t'as, mettons, un All You Can Eat Buddha, tu sais, bon, qui a fait quelques festivals, puis je veux dire, tant mieux.
Ouais, Rotterdam, c'est bien cool et tout.
Ouais, mais là, à côté, t'as Les Affamés, OK, qui est vendu à Netflix partout dans le monde, qui est déjà vu par des millions de personnes, il y a des critiques partout, tu sais. Ça peut-tu vraiment être autre chose que Les Affamés cette année, comme le film?
Mais tu sais, ça, c'est quasiment une non-catégorie, rendu là. C'est un peu comme la catégorie du public, c'est comme...
Mais cette année, par contre, le public, ils ont changé, c'est que c'est plus le... Il me semble que c'est plus le film qui fait le plus gros box-office automatiquement, mais qui appelle le public à faire un vote sur le site web, je pense.
Ouais.
Donc au moins
c'est le bal des films Cristal puis des films Séville là, tu sais, ce prix là, puis je veux dire, puis je leur enlève rien, je dis pas ça avec condescendance ou par méchanceté, mais juste comme c'est ça, tu sais, c'est exactement pour remettre, parce que tu sais, ça reste un show de télé là, puis c'est ça qu'il faut quand même relativiser à tous les Je peux-tu dire une petite déception personnelle?
Oui, vas-y,
je vais la dire publiquement, parce que moi, je suis vraiment pas du genre à faire des sorties publiques là, par rapport à des déceptions. Il y a des cinéastes qui le font, puis je trouve que c'est toujours disgracieux quand ça sort, pour ne pas en nommer. Là, je veux dire, il y a tout le temps qu'ils disent...
Okay. Parfait, vas-y, mets-toi les pieds dans les plats, Pascal. C'est le temps ou jamais. Là.
Patrick Huard, Bon Cop, Bad Cop 2. Là.
Oh, meilleur acteur. Là.
Anthony était meilleur. Bon, je l'ai dit, là, voilà, c'est dit. Là. OK?
Parfait.
C'est bon, on peut passer au prochain appel. Je ne le dirai pas plus que ce que je viens de dire. Puis bon, puis Patrick Huard, si je veux dire, c'est un film fatigué, d'une performance fatiguée. Ça n'a pas sa place là. Puis c'est ouais. là où on relativise que c'est un show de télé. Je n'en dis pas plus. Ouais. Pour le reste, bravo aux nommés. Meilleur court-métrage documentaire, qu'est-ce que t'en penses de cette catégorie-là?
Ben en fait, moi je suis mitigé parce que d'un côté, tu sais, évidemment, moi je suis quelqu'un qui pousse beaucoup de court-métrages, puis avec plein écran encore plus, tu sais, évidemment. Mais, tu sais, documentaires ont quand même plusieurs catégories à eux seuls. Tu sais, il y a meilleur film documentaire, il
ouais.
y a meilleure direction de la photo pour le documentaire uniquement.
Ouais.
C'est quand même un luxe que, tu sais,
oui,
d'autres
oui,
oui. ont pas. Meilleur montage documentaire, meilleur son documentaire. Fait que, tu sais, c'est quand même un espèce de trou que je pense qu'il va être sûrement comblé dans les prochaines années. Parce qu'effectivement, ça fait pas de sens qu'un documentaire court comme, mettons, Photo Jaunie, que j'ai adoré, ouais, tu sais, puis qu'on ben a présenté
oui.
à plein écran,
ben oui.
N'ait comme pas de catégorie. C'est comme s'il
n'a même pas la chance chance d'exister. Il n'existe pas aux yeux de ce gala-là.
C'est ça qui est weird un peu. Mais en même temps, c'est ça. Il y a quand même d'autres catégories pour le documentaire qui valent la peine. Et grosse année pour le cinéma documentaire au Québec, d'ailleurs. Là.
Oui, wow,
t'sais,
oui,
j'oserais presque dire que c'est meilleur que la catégorie meilleur film de fiction. Là. Donc, j'ai comme aucune idée c'est avec lequel qui va vous l'emporter. Là. Il y a vraiment des gros, gros choix. Parmi les courts-métrages, parce que ça, c'est un peu la catégorie qui me touche plus... meilleur court-métrage de fiction également, une grosse année. Moi, je suis extrêmement content pour la nomination de Lost Paradise Lost de Yann Giroux.
C'est ça, toi, t'as trippé sur ce film-là.
Ouais, c'est un film qui divise beaucoup. C'est une espèce de film qu'on aime ou qu'on haït, ouais. j'ai l'impression.
Ouais,
là.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup de détracteurs de ce film-là. Mais reste que Yann Giroux, c'est un gars qui a de l'ambition. C'est un film de cinéma, c'est une proposition audacieuse.
Ouais.
Puis, moi je suis très très content. J'ai vraiment pas l'impression qu'il va gagner parce que c'est une espèce de cours qui divise trop. Là.
Ouais.
Mais de le voir en nomination, je suis très content.
Ouais.
Puis, toutes les autres aussi, là, on va les nommer The Catch, Crème de Menthe, Pre-Drink, Born in a Maelstrom. C'est tous des films.
Ouais.
Comme des gros blockbusters de courts-métrages.
C'est des blockbusters de courts-métrages. Tu sais, Born in a Maelstrom avec Sacha Lane, Crème de Menthe, un film de plus de 20 minutes.
Qui était
à Cannes. Ouais. Bon, tout ça. Moi, si on joue au jeu des prédictions, moi, je pense que Crème de Menthe va l'emporter. En fait.
Meilleur court-métrage d'animation aussi, il y a des très gros morceaux. Et ça, je suis particulièrement fier parce qu'à plein écran, on en a présenté plusieurs de ces films-là.
Ouais, la Maison du Hérisson, La Pureté de l'Enfance.
Ben, la Maison du Hérisson est en ce moment en salle au Samotis Park avant Isle of Dogs de Wes Anderson. Pour vrai, là, c'est vraiment un match que je suis content et que je suis fier. Puis la réalisatrice elle-même du court-métrage, là, c'est clair qu'elle est comme fan de Wes Anderson. Tu regardes ce cours-là, puis ça fait un peu Fantastic Mr. Fox. Là, fait que ça, je trouvais que c'était cool. La Pureté de l'Enfance que jouait avant les scènes fortuites aussi, de Sviane, Me Baby and the Alligator qui jouait au festival l'année dernière. Puis d'ailleurs, ça, c'est un truc que je m'étais un peu battu parce que c'est comme un film d'animation slash vidéoclip un peu. Là. Fait que là, les gens étaient pas, tu sais, au sein
de l'équipe. Je l'ai pas vu, lui. Ouais. C'est un des quelques que j'avais pas vu la journée. Là.
C'est ça. Ben, c'est comme un espèce de long vidéoclip musical de 10 minutes au fusain sur trois chansons de blues, en fait. Là. Puis non, mais je suis très content pour ce film-là. J'ai pas vu encore. J'ai pas vu Avec ou sans soleil de Jean-Guillaume Bastien. Jean-Guillaume Bastien qui est.
Tu sais que c'était une carte blanche.
Ben c'est ça, FNC. Du FNC, hein, ouais. Ça, c'est cool. Donc.
Jean-Guillaume, que je connais personnellement, mais qui en plus. Ben, je dis ça parce que c'est pas a priori un cinéaste d'animation. La carte blanche, là, un petit peu. Il s'est dit tant qu'à faire quelque chose, justement comme ça, je vais me pousser hors de mes zones de confort. Puis il a exploré l'animation. C'était une première, puis là, il se retrouve... c'est complètement une surprise là, pour lui de se retrouver comme ça, avec aux côtés de... Tu sais, je veux dire, La Maison du Hérisson, c'est un film complètement maîtrisé, où tu sais, toutes les poupées ne pleurent pas, de Frédéric Tremblay.
Ouais.
Un autre film en stop-motion, mais quand même avec une immense maîtrise technique, tout ça. Puis lui, il arrive avec son petit film artisanal, là, comme produit, un peu comme ça.
Ouais, c'est ça.
Comme quoi, hein, des fois, on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui plaît.
Ben oui, parce qu'il y a quand même des grosses... Tu sais, ça, il y a quand même... Tu sais, il y a un peu des films absents que t'es comme... Ouais, je suis surpris, mettons, qu'il n'y ait pas eu le sujet, tu sais, produit par l'ONF. Là, donc, c'est ça, c'est des films comme ça que tu te dis... Ah, ok, mais correct, pourquoi pas. Tu sais, comme La Pureté de l'Enfance, j'adore ça, mais c'est un peu comme un petit sketch, un peu. Tu sais, comme contrairement à d'autres films qui sont peut-être plus ambitieux, mais en même temps, c'est super drôle. La Pureté de l'Enfance, c'est super bien fait.
Ouais. Fait que, mais ouais. Paul, quand même, on peut pas juste quitter le sujet sans se prononcer. Il reste du meilleur film, est-ce que tu penses que c'est plus l'année Affamé, Chien de garde ou Problème d'infiltration?
C'est dur à dire, parce que d'un côté, Les Affamés, c'est comme le film cool. Puis tu sais, est-ce qu'il y a le syndrome de c'est donc bien le fun d'avoir un film de zombies québécois, un film de genre, tout ça, qui rayonne. Puis tu sais, Robin Aubert, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, là, c'est comme un peu le chouchou, là, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a des réals qu'on aime pas, puis qu'on est comme, oh, j'ai pas le goût de voter pour lui, tu sais, comme inconsciemment même, des fois, mais je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, là, des réals qui ont eu beaucoup de prix dans le passé ou qui ont eu beaucoup de carrière, tu sais, on dirait que là, c'est comme l'année ou jamais pour Robin Aubert, dans ce sens, quoique, tu sais, il a fait d'autres bons films, puis tu sais, c'est quoi son film, là, avec Michel Barrette, là?
Ben, il a fait À l'origine d'un cri.
Oui, À l'origine d'un cri, qui était full bon aussi, là. Mais, fait que, d'un côté, moi, je vois ça, tu sais, Les Affamés, je pense qu'il y a des très grosses chances. Le problème d'infiltration aussi, puis tu sais...
Moi, je pense que ça va être le problème d'infiltration. Quasiment, ben, en même temps. Moi plus que Chien de garde. Je pense que Chien de garde, c'est 8 nominations. Dans un sens, c'est un peu ses prix.
Ouais, c'est ça.
Je pense que Théodore Pellerin va gagner. Je pense qu'il va gagner certaines autres catégories. Mais je pense que c'est plus un show de nominations qu'un show de prix. Moi, je pense que les prix vont beaucoup jouer. Puis Les Affamés vont gagner plus de prix techniques. T'sais, meilleur son, c'est clairement Les Affamés. Là. Je veux dire, ça, c'est comme ça. Ça aussi, c'en est un qui est écrit dans le ciel. Mm-hmm. Mais peut-être meilleur film. Moi, je suis quasiment 50-50, moi, puis mais si j'avais un pari à mettre, je vais peut-être y aller pour le problème d'infiltration pour la simple et unique raison que ça a été un succès box-office surprise.
Ouais. Non, mais je pense que ça se joue entre ces deux-là, en fait, là, pour la plupart de toutes les grosses catégories, là, moi j'ai l'impression. T'sais, peut-être que meilleur scénario, ça va être l'occasion peut-être de récompenser Chien de garde. Ensuite, quoi d'autre? Parmi les plus gros trucs, je voterais pas pour Patrick Huard, meilleur acteur.
Sacrifice.
Mais j'ai l'impression que c'est Christian Bégin, là, même si je trouve qu'il surjouait par moments, mais c'est un peu à cause du concept du film, ça repose tellement sur lui que les gens vont vouloir voter pour lui.
Ben oui, c'est sûr que c'est Christian Bégin.
Meilleure actrice, ça risque d'être Élise Guilbeault, même si je trouve que le film a des grosses limites. Là.
On verra. En juin, hein, nous, on est le seul gala d'été au monde.
Puis, un truc que je serais très content, c'est meilleure photo pour la petite fille aux Annemettes, qui aimait trop les Annemettes.
Ouais, ça, là-dessus, je t'entends,
le look
je suis assez d'accord.
Pas de bon sens, là. C'est comme... Ouais. Puis même Hochelaga, tu sais, qui est quand même vraiment beau puis impressionnant au niveau visuel, mais c'est plus qu'une question de... C'est ça, c'est une question de choix. Puis tu sais, la petite fille qui aimait trop les Annemettes, c'est vraiment une proposition particulière, tu sais. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, il n'y a rien qui ressemble à ça.
Ouais, je pense qu'il y aurait mon vote aussi. Mais tu sais, je regarde un peu les acteurs, puis tu sais, ça reste la parade un peu du végétariat québécois. Puis tu sais, comme, je vais t'en dire une qui m'a un petit peu, tu sais, je disais meilleur acteur, puis je veux pas sonner amer, parce que je relativise tout de suite. Tu sais, j'ai été déçu genre 2 heures, puis après ça, j'ai comme passé à autre chose. Je veux dire, j'ai trop de choses à faire pour être déçu de comme que mon acteur soit pas nommé, là, on s'entend, là, tu sais, je veux vraiment relativiser. Mais meilleure actrice aussi, tu sais, je vois, mettons, Isabelle Blais qui est nommée pour Tadoussac, puis Camille Mongeau est pas nommée, puis tu sais, Camille Mongeau, c'est pas non plus, c'est pas une vedette, mais c'est une très bonne actrice, puis, tu sais, bordel, je veux dire, meilleure interprétation féminine, premier rôle, out, Mélissa Zamo-Poulin, tu sais, elle est peut-être bien fine, là, c'est pas la question, tout le monde est fin au Québec, là, mais tu sais, puis in Camille Mongeau, là. Pour moi, c'est un petit peu évident, mais encore là, dès qu'on s'insure, je pense qu'on faut respirer par le nez, puis qu'on se dise, garde, c'est un gars-là à la télé, il n'y a pas de stress avec ça. Mm-hmm. Puis si ça peut faire en sorte que quelques personnes vont décider de commander en VOD la petite fille qui aimait trop les allumettes, ou le problème d'infiltration, ben ça aurait eu ça de gagner. Ouais. Ou quelqu'un va aller voir Chien de garde en salle, ça aurait eu ça de gagner. Fait que, tu sais, en ce sens, hein.
Ouais. Puis un petit shout-out aussi, moi, j'étais convaincu qu'elle avait une nomination automatique dès que j'ai vu le film pour Les Rois mongols, j'oublie son nom, mais la grand-mère. Pour meilleur rôle de soutien, moi, je pensais, la grand-mère anglophone, là. Moi, j'étais sûr qu'elle aurait une nomination, et non. Donc, c'est dommage,
vrai.
Mais en même temps, tu sais, je veux dire, Michel Langteau dans Les Affamés ou Brigitte Poupard, tu sais, ça y va, là, tu sais.
Ouais.
Fait que, assez parlé des Iris, maintenant, passons au. Pas aux nominations, mais à la sélection de Cannes, annoncée ce matin. Et là, ce qui est cool, moi, je peux peut-être en parler. Genre, avec plein écran, on s'en va à Cannes. On va être quatre de l'équipe qui s'en vont à Cannes pour notamment vendre du rêve, vendre notre projet, faire des rendez-vous. Puis moi, en fait, je vais probablement écouter moins de films, de mettons des gros films, que aller genre au marché du cours, écouter des films québécois avec mes écouteurs sur un petit ordi. Fait que c'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Mais on peut quand même un peu rêver puis divaguer un peu sur la sélection. Puis c'est très drôle en fait parce que moi je suis rentré ce matin au bureau. Puis là on est plusieurs cinéphiles, tu sais. Puis là on c'est à 5h du matin heure de Montréal, heure de Québec. Fait que là tu sais on se lève puis c'est déjà tout annoncé.
Moi
là,
je me suis réveillé ce matin, la première chose que j'ai dit c'est ah Cannes est sorti. Tu sais la première chose que je me suis dit en me levant, je sais pas à 8h le matin, c'est comme ah là l'internet est.
C'est comme notre Noël, tu te réveilles puis tu vois les cadeaux sous le sapin là.
C'est ça.
Mais c'est un peu ça. Puis moi c'est ça, j'avais des étoiles dans les yeux. Puis je disais à mes collègues, my God, je pense que c'est la plus belle sélection depuis que je me rappelle, tu sais, depuis que je suis ça, là, que j'ai jamais vu. Puis mon collègue n'était pas d'accord, il était comme ah non, hein? Puis, lui il avait vu plein de, tu sais, des sites font des prédictions, mettons ah on pense que Claire Denis va être en sélection,
ben,
on pense qu'il va avoir tel truc. Bon déjà il faut aussi tempérer, ça veut dire qu'il va y avoir des ajouts dans les prochains jours, faut que ce n'est pas final.
Ouais.
Mais aussi, tu sais, il y a juste comme 20 places en compétition, puis mettons une vingtaine de places dans un certain regard, tout ça, donc il peut pas avoir tous les films non plus.
Ouais, bon, puis là aussi, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est la semaine prochaine, là, que la semaine de la critique et la quinzaine vont être annoncées. Il y a certains films qui se ramassent là. Si on se rappelle, je veux dire, Happy Chapong, Veracita Cool, ben là, en plus, il est là cette année avec un film hors compétition, là, en projection spéciale. Mais, tu sais, il était, si je ne m'abuse, il était même pas dans un certain regard.
Je pense que c'était dans la quinzaine, il me semble.
Ouais, dans la quinzaine. Ouais. Puis, tu sais, c'est très possible qu'un cinéaste, quote-unquote, high profile, là, tu sais, je veux dire, de mettons, de catégorie A, là, mettons qu'on peut les appeler comme
ça. Mais c'est parce qu'il y a plus que 20 cinéastes de catégorie A dans le monde, c'est ça, ben, à un moment donné.
C'est ça.
C'est que, quand tu vois le nom de ceux qui sont là, je pense pas qu'il y a personne vraiment qui a volé des places. Là.
Exact.
Bon, ensuite, on revient peut-être un peu rapidement sur le scandale Netflix aussi. Netflix qui essaie de jouer un peu au bras de fer avec Cannes, qui a annoncé
The Other
hier.
Side of the Wind. Ouais. Ça, là, c'est genre la chose que j'attends le plus de, comme... Le cinéphile, tu parles de Noël, là. Moi,
c'est
ce film-là, d'Orson Welles, ça fait longtemps que je l'ai sur mon radar, le film qu'il a fait avec John Huston à la fin de sa vie. Puis là, il est là, il est si près. Mais je suis sûr que Netflix va mettre tous ces films-là disponibles pendant Cannes. Moi, je suis sûr que le
probablement,
pied de nez va aller,
genre dès l'ouverture, là.
Ouais, ouais. Le pied de nez, il va être simultané, là.
Ouais.
Genre, la guerre est ouverte, vraiment, là. Parce que, ouais, je sais pas si tu peux un peu, pour les auditeurs, peut-être qu'ils le sauraient pas, là.
Ben, c'est ça.
Qu'est-ce qui se passe en Netflix et Cannes?
Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, pour la première fois, il y avait des films produits par Netflix, donc Okja et le film de Noah Baumbach.
De Meyerowitz Stories.
C'est ça, qui était en sélection officielle, donc en compétition. Et ça avait un peu créé des débats, des remous, parce que, par exemple, t'avais Pedro Almodovar, qui était membre du jury, qui disait que les films Netflix ne devraient pas être considérés. Will Smith qui est comme non, son coup Netflix, puis comme quelques mois plus tard, il y avait un film qui sortait.
Ouais.
Et là, cette année, un peu, le festival a décidé de dire les films en compétition doivent avoir une sortie prévue en salle. Et là, évidemment, pour Netflix, eux, ça n'a jamais été dans les plans. T'sais. Eux, leur modèle d'affaires, c'est quand on fait un film, ils sont Netflix dans le monde partout. Et en plus, avec les lois françaises de distribution, si, mettons, ils faisaient une sortie pendant une semaine, mettons, juste pour faire plaisir à Cannes, dans un cinéma, mettons, ben, ils pourraient pas être sur Netflix France pendant 3 ans.
Ouais.
Là, ça fait que c'est un peu une guerre de tranchées comme ça. Moi, je peux comprendre des deux côtés de la chose, parce que d'un côté, Cannes, eux, se disent, nous, on privilégie les salles, on n'est pas là, tu sais, pour faire la publicité d'un gros géant qui, de toute façon, n'a pas besoin de nous pour, tu sais, survivre.
Exact, ouais.
Et de l'autre côté, Netflix sont comme, ben là, si vous faites ça, nous, on enlève tous nos films. Parce que, tu sais, mettons, justement, le film d'Orson Welles qui a été restauré, qui a été trouvé après
ça,
tant
là,
d'années.
C'est pas la même affaire.
Mais ben, de toute façon, il n'aurait pas été en compétition, on s'entend, ça a été parce que c'est un vieux film.
Cannes classique.
C'est ça, Cannes classique, un beau truc, un beau spot, etc. Mais là, et Cannes le dit publiquement, là, nous, on l'avait, là, le film était le bienvenu, évidemment,
oui,
tu sais.
Oui.
Mais Netflix a dit, si vous prenez pas nos films, dont le nouveau d'Alfonso Cuarón, dont le nouveau de Jérémy Saulnier, tout ça, ben, on retire tous nos pions, tu sais, tous nos films. Et cette année, ils ont plus de films qu'année dernière qui sont, disons, des gros films, parce que Netflix, à chaque année, c'est exponentiel, là, le nombre de productions qu'ils font. Alors, c'est ça, hier, à la veille de l'annonce de la sélection de Cannes, Netflix a annoncé qu'ils retiraient tous leurs pions. Et, comme tu l'as dit, Pascal, moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de, comme... La journée d'ouverture de Cannes, ne vous étonnez pas si ça. Dans vos
un
feeds.
Un nouveau Alfonso Cuarón sur Netflix.
C'est ça,
là. Ouais,
exactement.
Ouais. Le film d'Orson Welles sur Netflix, ça, c'est sûr que c'est ça
ah,
qui va
oui,
se passer.
Je pense
c'est
que
très
oui.
enfantin, là, tu sais, je veux dire.
Il y a de la mauvaise foi des deux côtés, disons.
Ça devient vraiment des guerres d'égo, mais qui est perdant dans ces guerres d'égo-là?
Mais en même temps, tu sais, je me dis.
Cinéastes, tu sais.
Ben, est-ce que quelqu'un est vraiment perdant? T'sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce débat-là. Puis, tu sais, d'un côté, il y a assez de bons films dans le monde pour faire Cannes. T'sais. Puis, Cannes, c'est le principal festival au monde. Tout le monde veut aller à Cannes.
Ouais.
Fait que là, tu vois, la compétition, même sans les films Netflix, là, ça a de la gueule.
Ouh.
Fait que ça, d'un côté. Netflix, eux, est-ce qu'ils perdent vraiment quelque chose? T'sais, c'est genre, c'est un géant inarrêtable rendu là. T'sais. Fait que peu importe. Pour la poignée de cinéphiles qui auraient pu le voir à Cannes, t'sais, c'est pas comme si. Il y aurait eu une sélection à Cannes, il aurait joué dans les écrans à Montréal, tu sais.
Non, ça, c'est ça.
Fait que les cinéphiles, ils perdent pas vraiment. Les cinéastes non plus, parce que, tu sais, les cinéastes aussi, c'est comme, mettons, là, Cuarón, là, si Paramount... Tu sais, aussi, c'est Cuarón, à un moment donné, il a accepté ce deal-là, tu sais.
Ouais.
Si, mettons, Netflix va faire 5 millions de plus que Paramount, puis que quand tu signes avec Netflix, tu sais très bien que t'auras pas de sortie en salle... Ben, à un moment donné, je me dis, j'ai pas vraiment de... Tu sais, je suis pas en train de prendre en pitié un cinéaste qui se fait financer ses films à grands coûts de millions de dollars, tu sais, fait que...
Non, je sais bien, puis en plus, si c'est l'année où Cannes, au moins, est cohérent avec sa guéguerre contre Netflix, parce ouais. que Cannes, cette année, fait miroiter les nouveaux talents plus que jamais, avec les deux ouais. sélections qui ont été annoncées. Tu sais, je veux dire, il y a un des films égyptiens, là, dans la compétition, là, c'est un premier film, là. Personne le connaît, ce cinéaste-là. Là.
Ouais.
Tu sais, souvent, il y avait certains cinéastes, ben, comme Laszlo Nemes l'an passé, mais c'est très, très rare, puis cette année, il y a vraiment plus, j'ai l'impression, la porte est plus ouverte, surtout dans Un certain regard, là, c'est presque que des premiers ou deuxièmes films. Mm-hmm. Ça, c'est du jamais vu, puis ça a même été énoncé publiquement. C'est une année sous le signe du renouveau, on veut donner la place à des nouvelles générations. Puis, écoute, je fais jamais ça, là, Paul, mais j'ai fait mes devoirs pré-podcast.
Oh, shit.
J'ai compilé une liste des absents de Cannes, au sens où les films qui étaient sur le radar puis qui n'ont pas été... Donc, je vais te les nommer comme ça en rafale, parce que c'est quand même impressionnant de nommer tous ces noms-là en rafale.
Ben, ceci dit, c'est ça, comme on a dit tantôt, il risque d'avoir des ajouts, puis moi, j'ai lu une rumeur très, très grosse que, en fait, Lars von Trier s'en vient comme... Il va être annoncé dans les prochains jours.
S'en vient. Tu sais, t'en parles comme le boogeyman, là.
Non, mais en tout cas...
Lars von Trier s'en vient.
Non, mais à chaque année, il y a toujours... tu sais, puis on dirait qu'il se garde quasiment une espèce de... Tu sais, comme Steve Jobs, là, quand il faisait des annonces à Apple, puis comme, oh, thing, là, tu sais. By the way, on a aussi ça, tu sais. Ben, c'est ça, je pense que Cannes, ils font ça chaque année, ils s'amusent. Puis dans deux jours, ils font comme, one last thing, on a le Lars von Trier, by the way.
Mais jouons au jeu, parce que je les ai quand même compilés, puis ça a vraiment de la gueule. High Life de Claire Denis, The House That Jack Built de Lars von Trier, Sunset de Laszlo Nemes, qui doit quand même sa carrière beaucoup à Cannes. Ben non, il la doit à son talent. Là. On ne doit jamais notre carrière à des festivals. Là. Ça, faut toujours se rappeler ça, cher cinéaste. Là. Mais bon, quand même, Cannes, c'est une grosse crise de pousser dans le dos. Suspiria de Luca Guadagnino, qui est quand même un projet dont... excessivement curieux puis que j'ai vraiment hâte. Sainte Vierge de Paul Verhoeven, Radegund de Terrence Malick, The Wild Pair de Nuri Bilge Ceylan, dont le dernier film a gagné la Palme d'Or, Non-Fiction d'Olivia Sayas, Psyché de Gaspard Noé, Paterloo de Mike Lee, Maya de Mia Hansen-Love, Beach Bum d'Harmony Korine, If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins, Loro de Paolo Sorrentino, et The Man Who Killed God Don Quixote de Terry Gilliam, s'il peut se sortir de ses dédales.
Juridique, le lingo. Alors ça, c'est fou.
Et je n'ai pas nommé le dernier mais non le moins, The Life and Death of John F. Donovan, qui, Thierry Frémaux lui-même, il est tellement entitled à Cannes, Dolan, qu'il y a eu une annonce publique spéciale pour lui. Et Thierry Frémaux l'a dit que c'est parce qu'il est retourné en montage que The Life and Death of John F. Donovan n'est pas là. Donc, il va plutôt viser Venise et TIFF à l'automne, j'ai l'impression.
Ouais.
Mais c'est quand même juste ce que je viens de nommer là. Ça aurait pu être une compétition alternative de Cannes.
Ah oui, oui complètement. Ben, c'est ça.
J'ai nommé 18 films.
C'est ça. Fait que quand les gens... Moi, je trouve ça drôle un peu les gens qui se plaignent de la sélection. Ben, c'est sûr que... C'est ça, c'est que cette année, je trouve qu'il n'y a pas lieu de se plaindre. Tu sais, il y a des années où tu vois des films, t'es comme, ah ouais, un autre Atom et Goyan en sélection officielle, un Sean Penn en sélection officielle. Mais là, mais là, cette année, je suis comme, il y a trop de talent là-dedans pour comme un peu
nommer la sélection. Je suis d'accord avec toi, pour vrai. Mais parlons-en, parce que là, on a parlé des absents, mais qui qui sont-ils les présents?
Ben écoute, là c'est drôle parce qu'on va peut-être enfin pouvoir taire le débat de qui est le plus grand cinéaste iranien vivant entre Jafar Pahlavi et Asghar Farhadi.
Ben là, les deux sont là aussi.
C'est ça. Moi j'ai toujours été un peu plus team Pahlavi. Je sais que toi t'es plus team Farhadi.
Ah, moi je suis team Farhadi. Ben tu sais, je veux dire, Kiarostami est probablement le plus grand. Si, mais là, il est décédé.
Ouais, c'est ça, là, il est décédé maintenant. Donc le trône, c'est ça. Il a laissé un peu sa ceinture. Ouais. Là, puis là, c'est comme.
Moi, ben oui. Moi, pour moi, l'héritier du trône, ben, selon ma sensibilité de cinéphile et de cinéaste, pour moi, Asghar Farhadi, c'est un monstre là, en ce moment, je veux dire, film après film. Même Le Passé, que pour certaines personnes était un film quasi mineur, moi, je pense que c'était mon film de l'année en 2013 là, quand c'est sorti. C'est vraiment un cinéaste que dont j'admire l'intelligence. Je veux dire, c'est une intelligence de scénarisation, là. C'est tchékovien, c'est dostoïevskien, c'est je sais pas quoi dire, là, c'est comme c'est du grand, c'est une immense plume. Là, que... Il y a d'autres cinéastes peut-être plus intuitifs, il y a d'autres cinéastes qui sont enthousiasmants, mais Asghar Farhadi, c'est une richesse, une finesse d'écriture, là, comme il s'en fait plus. Là, puis... Non, moi c'est Farhadi, mais je veux dire, Jafar Panahi inspire le respect. Puis... En plus, là, cette année, Cannes, quand même. Cannes se veut politique, je veux dire, en compétition, d'avoir le dernier Panahi et d'avoir le film de Kirill Serebrennikov. Ça fait couler beaucoup d'angle, justement, parce que c'est un autre cinéaste qui est un peu réprimé par son pays, mais que là, justement, Cannes demande des... et à l'Iran et à la Russie, des visas spéciaux pour qu'ils puissent représenter leur pays. Et on s'imagine que ni un ni l'autre, les deux vont briller par leur absence, finalement, parce que politiquement, ils n'ont pas le droit de quitter leur pays. Mm-hmm. Fait que quand même, 2 films sur 18 où le cinéaste risque d'être absent, ça va brasser des cartes quand même à la croisette. Là.
Que serait Cannes sans un Godard, Jean-Luc Godard et Lévy d'image? Ça, c'est j'ai hâte de voir. Ça risque d'être encore une fois un des films qui va le plus diviser.
Ben, le poster, c'est quand même Pierrot le Fou. Hein?
Ouais,
c'est,
ouais. C'est...
Hey, puis ça, courtise, Godard. Hein?
Un petit mot sur l'affiche. Je la trouve pas particulièrement jolie cette année, l'affiche. Je trouve que Cannes a mis la barre haute, puis cette année, c'est peut-être pas une des plus remarquables, mais c'est la graphiste Flore Maquin qui le fait, et elle, ça fait longtemps que je la suis, en fait, puis que je partage son travail sur mon Facebook, là. Vous irez voir son site web, elle fait beaucoup, beaucoup de designs de posters puis de culture pop, là. C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Là, j'ai l'impression qu'elle était juste un peu restreinte par, j'imagine, les conditions de création.
Ouais, ben, ouais.
Parce que dans le fond, c'est juste un style un peu travaillé, là, c'est pas non plus super, tu sais...
Créatif, non, mais c'est épuré, puis ça évoque ça évoque une tradition cannoise. C'est pas original, mais ça fait la job. Moi, pour moi, c'est une affiche qui fait la job.
Ouais. Mais d'habitude, j'ai plus un wow d'habitude quand je vois l'affiche de Cannes. Là, cette année, j'avais pas ça. Documentaire de Stéphane Brisé sur la situation Netflix Cannes en guerre.
Non, mais Stéphane Brisé qui retrouve Vincent Lindon. Là, ouais. Ça, c'est un duo parce qu'ils nous avaient quand même fait la loi du marché. La loi du marché, là, si ça vous a glissé entre les doigts là, à l'année où c'est sorti, remettez ça presto sur votre radar. C'est un crisse de bon film. Puis c'est ça, encore un autre duo de feu, Stéphane Brisé, Vincent Lindon. Ouais.
Pour la France également, Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite. J'avoue que je ne suis pas vraiment familier avec son œuvre. Je pense que j'ai vu un de ses films. J'ai pas été très fan. Mais...
Ouais, moi j'ai vu les chansons d'amour puis le genre de suite un peu qu'il avait. Ben, la suite qu'il avait faite. Mon Dieu, j'ai oublié le
nom. Les amants réguliers, là.
Ouais, non, les amants réguliers, c'est Garel, ça, qui a fait ça.
Ah, pardon.
Voyons, esprit. En tout cas, j'ai oublié son dernier à Christophe Honoré. Là. Mais un cinéaste qui est très en dents de scie, là, pour moi. Je veux dire, Les Chansons d'amour, c'est un film que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais il a fait vraiment des films qui me passent 6 pieds par-dessus la tête puis que je roule des yeux en regardant. Donc, c'est un ou l'autre. Là. Ça se pourrait que ce soit un autre film qui divise aussi le Honoré cette année. On verra. Une cinéaste française aussi, Eva Husson. Qui avait fait Bang Gang, puis là, elle revient avec c'est quoi, les Filles du Soleil, c'est ça?
Oui,
quand même. C'est ça, une milice féminine, là, je pense que ça surfe sur l'air du temps, mais en même temps, non, c'est parfait, c'est une histoire qu'on a envie de voir. En tout cas, moi, j'ai envie de voir cette histoire-là, j'ai envie de voir ce film-là. Donc, très, très hâte de voir ça. L'année de l'Asie, quand même.
Quand même. Oui, tout à fait. Pas mal tous les gros noms qu'on pouvait s'attendre sont là, en compétition ou dans un certain regard. Ouais. Mais notamment, c'est ça, le Jasenki, son nouveau film. Ouais. Moi, ça fait longtemps que j'ai vu les images, puis ça a l'air très cool, une romance un peu... ça sonne, le synopsis, un petit peu comme du Usha Chen.
Oui, un petit peu, c'est vrai.
Très hâte de voir ça. Li Shandong.
Tsai Ming-Liang, un peu, tu sais, le genre d'histoire d'amour que, offbeat que Tsai Ming-Liang pouvait faire, là... Mm-hmm. Justement, ouais. Li Chang-dong
et le grand retour.
Moi, c'est ma prédiction pour La Palme.
Oh!
Ça y est.
Aussi, un nouveau Kore-eda. C'est un peu, bon, un habitué. Pas nécessairement une grosse surprise de ce côté-là.
Ouais. Et Kore-eda, c'est un cinéaste que j'adore, qui le respect. Pour moi, Afterlife, c'est probablement son meilleur film. Nobody Knows, qui avait valu meilleur acteur à son jeune acteur qui avait 13 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il est dans une phase un petit peu mièvre de sa carrière. C'est-à-dire, il fait des films qui sont excessivement maîtrisés, mais c'est pas des films qui fait pomper le sang, là, tu sais. Puis pas que ce soit nécessairement obligatoire, mais je trouve qu'il tend vers le mielleux un petit peu trop à mon goût. Peut-être que ce film-là va évidemment changer ou rebalancer mon ce que je viens de dire, mais mm-hmm. quand même, Kore-eda, là, c'est je dis ça, je dis rien, là, ça reste un immense cinéaste, donc on a hâte de voir.
Du côté des États-Unis, j'ai l'impression que la sélection est un peu faible, mais on va attendre de voir les films à se prononcer. Spike Lee avec Black Klansman, avec 3K dans le titre, donc une référence très actuelle et audacieuse, évidemment, pour Spike Lee, qui aime toujours provoquer.
Okay. Ouais. Il va le sortir c'est ça, genre à l'anniversaire de la tuerie de Charleston aux États-Unis.
Ça se peut très bien.
Je pense que j'ai lu ça vite, là, peut-être ne me citez pas là-dessus, là, mais il me semble que c'est ça l'idée, l'intention derrière. Puis Spike Lee, là aussi, j'ai lu aujourd'hui que c'était la première fois. Ben, en fait, ça faisait depuis Jungle Fever en 91 qu'il n'avait pas été sous la croisette.
Mm.
Donc ça fait quand même. Très longtemps, donc très bienvenue, Monsieur Spike Lee. C'est drôle parce que Spike Lee, là, tu te rappelles, fut un temps où on chialait un peu Spike Lee, tu sais, il y a 4-5 ans, là, quand on commençait le podcast, il me semble qu'il gossait Spike Lee, puis moi, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé Chirac, en fait, je pense pas qu'on en a parlé au podcast, mais, ou peut-être je l'ai mentionné vite, mais pour quelconque raison, je trouve que, re-bienvenue Spike Lee, je sais pas comme pourquoi des fois le vent tourne d'un sens ou de l'autre, des fois, ils vont dire qu'il y a des cinéastes qu'on devient fatigué d'eux. Puis après ça, on dirait qu'ils reviennent, puis t'es comme content de les revoir. Moi, on dirait que c'est Spike Lee m'a fait cet effet-là. Il y a 5 ans, j'étais fatigué de Spike Lee, puis là, mon Dieu, je le trouve donc vibrant, vivant. J'ai comme hâte de voir ce film.
Et aussi, ça, du côté des États-Unis, le nouveau film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake, qui est un film de 2h20 quand même pour celui qui nous a donné It Follows. Ouais. J'avais pas été le plus gros fan d'It Follows, fait que j'étais un peu surpris de sa sélection au festival le plus prestigieux au monde, mais on attend de voir ça.
Ouais.
Sinon, je sais pas s'il y a d'autres films que tu voulais nommer.
Nadine Labaki, Capernaum, mais je mentionne Nadine Labaki parce que moi, Et maintenant, on va où qu'elle avait tourné au Liban. Ben, elle, c'est une Libanaise qui a étudié beaucoup en France, mais bon, qui tourne tout souvent. Son inspiration vient du Liban, clairement, puis elle vient tourner là tous ses films, Caramel aussi. Un peu inoffensif, mais bien sympathique, Caramel. Mais moi, c'est vraiment Et maintenant, on va où que j'avais élevé très, très fortement. Là. C'était même un de mes films de l'année où c'était sorti. Fait que je le mentionne, là. C'est vraiment plus qu'une poseuse, parce qu'elle avait un petit peu c'est drôle, là, je fais peut-être du double standard mal placé, mais tu sais, parce qu'elle avait eu ces critiques-là, tu sais, qu'elle était un peu là pour sa gueule, puis tu sais, pour son charisme et tout, mais non, clairement pas, je veux dire, c'est une cinéaste de talent, elle a tous les droits d'être là, puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir son prochain film. Puis c'est ça, Lee Chang-dong, je l'ai mentionné, moi j'ai l'impression que c'est l'année de l'Asie, j'ai l'impression que c'est l'année de la Corée, pour toutes les raisons politiques. Corée du Sud, oui, mais Corée, pareil. On parle énormément de la Corée cette année entre les Jeux olympiques puis la guerre de missiles, blabla, là. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça converge vers un Lee Chang-dong qui va épater la croisette. Il n'y a pas de Paolo Sorrentino, mais il y a un Matteo Garrone, Dogman, nouveau film. Puis je sais même pas si je n'ai parlé au podcast, mais The Tale of Tales, c'était abominable. Moi, j'ai trouvé ça abominable, en tout cas. Mm. Mais Reality et, Gomorrah, là, c'est quand même des œuvres marquantes, là, contemporaines du cinéma italien. Ouais. Donc, il revient avec une nouvelle en France, on a très hâte. Mais je veux dire, ils sont... T'sais, on pourrait toutes les nommer rendus là, mais c'est ça. Moi, je te suis, man. Moi, je pense que depuis que vous suivez le podcast, là, chers auditeurs, vous m'avez jamais vu aussi emballé de commenter une compétition à Cannes. pour vrai, je le suis. Il y a plein de nouveaux visages, puis plein de... C'est un peu champ gauche, puis j'aime ça. Mm-hmm. Puis le Asghar Farhadi pour couronner le Slasri Sussan.
En ouverture, moi, en plus.
En ouverture. Moi, je suis all-in pour ce programme-là. Bring it on.
Et là, je suis après me tenter pour me dire, pour les quelques jours à peine où je serai à Cannes, est-ce que je prends une de ces journées pour écouter le nouveau Wang Bing, Les armes mortes?
8 heures.
L'un des documentaristes les plus importants de notre époque. Moi, je pense que j'ai vu seulement un de ses films, là, il est quand même un rythme, surtout à l'ampleur de ses films, c'est assez impressionnant qu'il réussisse à sortir à peu près un par année, finalement. Là.
Ouais,
donc,
ouais.
Les âmes mortes, 8h15 sur la croisette, c'est un rendez-vous.
Et tu vas-tu aller voir le film de Han Solo?
Non, je pense pas. Ben, de toute façon, ça risque de... C'est ce genre de film hors compétition qui... Ils ont toujours un espèce de film comme ça pour avoir les vedettes.
Ils sont deux jours avant sa sortie pour vrai.
Oui, c'est
là,
ça. C'est comme, ouais. Et ça risque d'être à peu près impossible de pouvoir rentrer pour quelqu'un comme moi qui n'est pas aussi important que les producteurs et les... Non, mais c'est vrai. Je veux dire,
il y a un code de couleur et tout.
Fait que clairement, ce film-là, ça va être juste pour avoir tout le végétariat d'Hollywood sur le tapis rouge.
Ouais.
Donc voilà, Cannes, il y a encore des nouvelles annonces dans les prochains jours. On a très hâte et puis je vais pouvoir vous faire un petit compte-rendu un peu sur place. Fait que je vais suivez-nous en fait.
Ouais.
Puis rapidement, tant qu'elle est dans le festival, juste une petite annonce comme ça, en fait, c'est je ne sais pas encore annoncé. Mais c'est officiel, en fait, je suis sur le jury du festival Oberhausen Short Film Festival.
Ça, c'est
vraiment cool. Puis tu sais, comme souvent, on parle un peu de ton parcours, de lui, de Rémi, tout ça. Puis quand on est un cinéaste, puis genre, vous avez beaucoup de talent, puis c'est fou, là, tu sais, ce que vous faites, là. Mais tu sais, un film, ça peut vous mener à plusieurs festivals, tu sais. Mais si t'es un critique de cinéma ou un jury, tu peux pas vraiment, comme, faire... plus que un ou deux ou trois festivals par année. C'est pas la même game, un peu.
Ouais.
Moi, je suis très humble et honoré de ça. Je suis très flatté. Fait que je vais être sur le jury Fibrechi et je vais pouvoir un peu, encore une fois, faire un petit compte-rendu puis vous donner mes impressions de cette ville et de ce festival.
Ben oui.
Donc, suivez-nous sur Point de vue. Et puis sinon, Krim, ça fait comme longtemps qu'on parle de festival et d'animation. On voulait parler un peu de certains films rapidement. Toi, là, Pascal, en ce moment, t'es dans un mode un peu je revisite mes classiques. Là.
Ouais, parce que des fois, ça fait du bien, on dirait, de recentrer. Il y a un rythme dans les films contemporains qui peut être un petit peu essoufflant. Puis là, ces temps-ci, j'ai du temps. Tu sais, toutes les fois qu'on on est au podcast, on dit tout le temps. Ah, j'ai manqué de temps, j'ai juste vu quelques films que j'ai pu attraper à droite à gauche, tout ça. Moi, là, depuis deux semaines, là, les chums, là, je suis genre chez nous, là, puis je me sens même pas mal, là, okay, de prendre du temps, puis j'écoute fucking beaucoup de films. Puis dont, je me suis claqué le décalogue de Kieslowski au complet. Ouais. Merci, bonsoir. Fait que 10 films d'une heure de Christophe Kieslowski, ouais, que je n'avais jamais vu.
Considéré par plusieurs personnes comme étant possiblement la meilleure œuvre télévisuel de tous les temps. Là.
Et ça se défend, là, je veux dire, sans surprise, je suis positif. Là. Je me demande comment on peut ne pas aimer le décalogue. Puis en fait, c'est qu'il y a une constance dans le décalogue, c'est hallucinant. Parce que Kieslowski, il co-écrivait avec Christophe Piesewicz, qui a réalisé les 10, et il les a tous tournés en même temps. OK? Et ça, imagine là, l'assistant réalisateur ou les gens qui font l'horaire. Là. L'avant-midi, ils peuvent tourner Décalogue 8. L'après-midi, tourner une scène de Décalogue 3 avec tel directeur photo qui change. Tu sais, c'est une affaire de mongol, OK? Commandité par la télé polonaise. Et c'est tellement comme du grand art, puis c'est tellement psychologiquement riche qu'on dirait quasiment que c'est mal placé. Pas que la télé est vouée à être un peu abrutissant, là, mais il y a comme une tendance, mettons. Puis de savoir que ça a été commandité par la télé polonaise, je trouve ça tellement comme... C'est quasiment une utopie, là. C'est comme, voyons que c'est arrivé, ça. C'est comme curieux, là, que ça ait convergé vers ça.
On connaît moins aussi, peut-être, les contextes des télévisions étrangères, puis notamment en Europe, tu sais, comme... Notamment Bergman, il a fait beaucoup de trucs pour la télé.
C'est vrai, c'est vrai. Scène de la vie conjugale existait pour la télé. Ouais. Fanny Alexandre existait, je pense, d'abord pour le cinéma, mais il y a eu une expansion télé. Là. Et Scène de la vie conjugale vivait d'abord en série télé, si je ne me trompe pas. Là. En tout cas, bref. Mais oui, non, t'as raison. Mais bon. Qui dit anthologie dit quand même que c'est un petit peu inégal. Je veux dire, si tu me demandes Décalogue 8 et 9, c'est peut-être un petit creux de vague, mais globalement, là, moi, je ne suis qu'abasourdi. sur l'ampleur de la palette du regard et de l'humanité de ces deux scénaristes-là. Mm-hmm. Les deux Christophe, donc Kieslowski et son co-scénariste habituel, hein, avec qui il a écrit Bleu, Blanc, Rouge, avec qui il a écrit La double vie de Véronique.
Et ça se place où dans sa carrière? C'est pas mal vers la fin.
Ben, vers la fin, oui, mais c'est parce qu'en fait, il est décédé jeune, hein, Kieslowski est décédé dans sa cinquantaine. Donc, il y a ça là, qui joue en ligne de côté. C'est un peu comme Tarkovsky. On a souvent tendance à oublier que, avec l'héritage de ces cinéastes-là, on pense qu'ils sont morts de leur belle mort à 80 ans, mais non, il est mort dans la cinquantaine. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, Christophe Piesewicz, son co-scénariste, est toujours vivant. Là, fait que c'est ça qui est un peu drôle. Ben, drôle, ou triste, ou peu importe. Là. Et, mais ça se place, en fait, c'est ça, c'est avant La double vie de Véronique, qui est en 91, et Bleu, Blanc, Rouge, 93-94. Il avait fait des films avant, et du décalogue, le décalogue 5 et 6 ont été expansionnés, si c'est un mot, en film, donc A Short Film About Killing et A Short Film About Love. Mm-hmm. Les films, ça c'est deux décalogues d'une heure et demie finalement, c'est-à-dire quand t'écoutes le décalogue, c'est des versions d'une heure, 57-58 minutes, et ces films-là existent aussi en film, et... Ayant vu Short Film About Killing, Short Film About Love avant, et maintenant avoir pu comparer avec les décalogues, c'est drôle, il y a deux cas de figure. Short Film About Killing est charcuté, trituré et vraiment appauvri par le montage, et Short Film About Love est meilleur plus court. Donc c'est vraiment, vraiment drôle. En fait, je vous dirais, si vous avez vu l'un et l'autre, puis vous êtes curieux de visiter le décalogue, réfléchissez à ça, parce que des fois, le montage, ça peut être tellement ça, genre plus court, c'est mieux. Puis j'ai l'impression que Short Film About Love avait du remplissage, alors qu'une heure, ça coule de source. Puis Short Film About Killing, il y a vraiment là, des ellipses qui ne font aucun sens, puis il y a vraiment des sens perdus, puis appauvris. Donc, tu as vraiment les deux, puis ça c'est en soi, là, c'est un exercice de cinéphile très intéressant pour voir la force du montage, le pouvoir du montage.
Puis toi, dans l'œuvre de Kieslowski, est-ce que ça se place aux côtés de ses plus grands films? Est-ce que c'est du même niveau?
Moi, je ne peux que me prosterner devant l'ampleur de la somme du travail accompli. Puis comme je disais, l'humanité sans borne. Ce qui ressort de ça, c'est une empathie, une vision de l'homme, de l'humain. Moi, ils m'ont prouvé que c'est des humains... plus, là, tu sais. Mais, ceci étant dit, Bleu, Blanc, Rouge ou La double vie de Véronique sont peut-être en tant que film, sont peut-être plus aboutis. Puis je parle notamment, tu sais, Kieslowski est indissociable de la musique de Zbigniew Priestner, surtout dans Bleu, là, tu sais, la musique est vraiment là et tout. J'ai l'impression surtout que peut-être que ça a été fait un petit peu plus rapidement, puis peut-être que c'est là où ça en a un petit peu pâti. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a encore des grands moments de musique lyrique dans le décalogue, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une petite finesse, une petite esthétique qui a pu se permettre avec des films où il a peut-être pris plus le temps.
Ouais.
Mais pondre 10 films d'une heure ou parler d'autant de sortes de genres, d'autant de thématiques, d'être aussi profond et aussi humain avec autant d'histoires en dedans d'un an... qui fait ça, là? Je veux dire, qui fait ça? Qui a le puits créatif pour parler de l'humanité de façon aussi vaste en aussi peu de temps? Un génie, je le dis. Puis Kieslowski prouve là, que c'est un génie en faisant le décalogue. Il n'y a rien de plus à dire, pour vrai. Ouais.
Cool. Ben, hey, parlant des grands maîtres du cinéma, moi, je vais juste faire un petit shout-out à la rétrospective Bergman à la Cinémathèque. J'y étais hier soir pour le film. C'est ça, en fait, ce qui était vraiment génial, je trouve, c'est que je pense qu'ils ont fait une grosse campagne promo quand même à la Cinémathèque.
Ouais.
Puis je pense également que Bergman, c'est comme un des maîtres qui va toujours rester, là, comme un Kurosawa, comme Godard, comme d'autres, là, que t'as l'impression que c'est ça, des immortels, finalement. Là. Et en 2018, c'est de voir une salle pas mal comble, on parle à 95% complet, là. Pour un film, puis c'est ça, c'est pour un des films mineurs en plus de Bergman, tu sais, c'est pas pour Le Septième Sceau ou pour Persona qui était présenté par Raphaël Ouellette en ouverture, là on parle de Winterlight, Les Communiants.
Ouais. Dans sa trilogie sur la foi, tu sais, c'est pas complètement obscur, mais effectivement...
C'est pas obscur, mais tu sais, c'est juste que tu demandes à n'importe qui des films de Bergman, ça sera pas dans le top 5 des films qui vont sortir,
non.
Là, tu sais.
Puis moi, je trouve que c'est peut-être même le plus faible des trois, si je peux me permettre. Dans sa trilogie de la foi, moi, je trouve que Le Silence est clairement... c'est drôle là, de dire que d'être aussi catégorique, mais pour moi, le silence est vraiment le plus fort des trois. Mm-hmm. Puis ensuite, True Glass Darkly, puis Les Communiants. Moi, c'est pas dans mes préférés de Bergman, mais le silence, là, dans sa trilogie de la foi, celui-là, mm-hmm. c'est une de ses. Ça, c'est un de ses cinq meilleurs, à mon très humble avis. Mais ouais, fait que Les Communiants, c'est la première fois que tu le voyais?
C'est la première fois que je le voyais. J'ai pas vu beaucoup de Bergman. Moi, je suis très partagé selon les films, en fait. Autant je trouve qu'un Félix Alexandre ou qu'un Chris Chutman, c'est des chefs-d'œuvre. C'est comme incontestable. Autant je trouve que d'autres films, même Persona, moi j'ai beaucoup de misère avec ce film-là. Je comprends sa place dans l'histoire du cinéma, mais j'ai pas beaucoup embarqué dans ce film-là. Ni dans les Communiants, c'est très très mineur. C'est pratiquement du théâtre filmé, je trouve. C'est très épuré. Je pense que pour apprécier ce film-là, il faut vraiment avoir comme retourner sa filmographie complète, puis peut-être être plus comme de connaître
en continuité
mieux.
Un peu, c'est ça.
Parce que je t'avouerais que moi et ma copine hier, on était un petit peu perdus, puis on trouve un peu le temps long. Il y a des longues scènes qui sont très figées un peu aussi. C'était très peu cinématographique. S'il y a une chose, comme dans tous les films de Bergman, c'est que les acteurs sont excellents.
Ouais, Ingrid, si je me rappelle bien, dans Les Communiants, il y a aussi Ingrid Tulin, là, une l'actrice qui joue, tu sais, elle est dans l'église, puis la bras droit, là, où je sais pas trop, là, je pense qu'elle travaille, ça fait longtemps que j'ai vu Winterlight, là, mais Ingrid Tulin, là, une de ces actrices muses qui fait toujours des rôles secondaires, mais ou presque, là, dans les films de Bergman, il lui a rarement donné des premiers rôles, mais à toutes les fois qu'elle est là, en rôle secondaire, elle brille, elle est bonne, elle comprend exactement le registre, parce que Bergman, il y a un registre quand même, tu sais, c'est, comme tu dis, il y a quelque chose qui tend un peu vers le théâtre. Bon, dans Fanny Alexandre, d'ailleurs, tu as dit Félix Alexandre, je te
rappelle. Ah, GG, mon Dieu, pardon, quel lapsus.
Mais tu sais, je veux dire, dans ses plus grands films, son staging est impeccable, tout ça. Puis effectivement, Winterlight, ça m'avait fait l'effet un peu d'une douche froide. Tu sais, c'était figé, c'était très un peu, tu sais, drabe, mais tu sais, drabe qui redevient un peu négatif, là, je trouvais.
En même temps, ça va, c'est en adéquation avec le sujet, parce que c'est à propos d'un prêtre d'une église pratiquement abandonnée qui émet des doutes sur sa foi, puis sur son.
C'est ça.
Donc, bon, je peux comprendre un peu le côté minimaliste, le côté épuration, tout ça. Ouais. Mais ça en fait, c'est un film qui est peut-être moins facile d'approche, moins grandiose, moins spectaculaire et même moins inspiré, à mon humble avis. Mais reste que, c'est ça, j'étais très enthousiasmé en fait par juste le public présent. C'est tout le temps cool de voir ça. C'était d'ailleurs une restauration de 2017 là, du film, là, absolument impeccable. Là. C'est par la Zvenkit Institute, là, je ne sais pas trop. Là, donc, j'imagine l'équivalent de la cinémathèque suédoise. Donc, voilà. Alors, ça, props à ça. Pour Isle of Dogs, je vais en parler vraiment rapidement. Là, parce que
Deux
temps
minutes
file,
sur Isle of Dogs.
Mais il faut absolument qu'on en parle plus en équipe là, à
en
trois.
En groupe. Quand Rémi sera là.
Oui, c'est ça. Parce que moi, je trouve que l'histoire dans le podcast est quand même assez liée à l'histoire de Wes Anderson. Je sais pas pour toi, Pascal, mais tu sais, notre premier film de l'année, c'était Moonrise Kingdom. Puis on dirait que ça a été comme un des premiers films qu'on a vu aussi. C'était vraiment comme pas longtemps après la création de ça, de cette aventure. On allait voir Moonrise Kingdom. Puis ça a été un peu comme une révélation parce que j'avais l'impression que. Je sais pas si c'est Moonrise Kingdom en particulier, mais on dirait que ça l'a fait atteindre un nouveau cap un peu à la carrière de Wes Anderson, tu sais, puis devenir encore plus mainstream, encore plus. Peut-être des fois, même jusqu'à l'écœurantite, des fois. C'est un peu comme l'effet Tim Burton, là, des fois, t'es un peu tanné.
Mais moi, Grand Budapest Hotel, je l'ai dit publiquement, moi, je le digère pas, ce film-là. Ouais. Je veux dire, pour plein de gens, c'est un de ses films les plus aboutis, mais pour moi, c'est que tout ce que j'aimais de Wes Anderson, quand c'était crinqué à 11, ça redevenait oppressant puis agressant. Pour moi, Grand Budapest Hotel se campe carrément en queue de liste là, des films de Wes Anderson. Et c'est pas parce qu'il est pas maîtrisé, c'est quasiment l'inverse, sauf qu'il y a comme une ligne très mince à surfer avec Wes Anderson entre le maniérisme qui devient un peu, oppressant versus comme des vrais sentiments magnifiquement véhiculés. Ce que pour moi, ses meilleurs films, Royal Tenenbaums ou même Moonrise Kingdom, hein, moi je le mets vraiment dans ses meilleurs films, réussissait à communiquer. Puis, mais c'est ça, effectivement, garde tes cartes juste comme un petit hot or not peut-être, là, Isle of Dogs, si t'as bien aimé.
Oui,
ou
c'est
quoi,
ça.
On en reparle en groupe après. Là,
C'est drôle parce qu'il y a comme deux maîtres américains du cinéma qui doivent faire des nouvelles offrandes dans les dernières semaines, là, coup sur coup. Ready Player One de Steven Spielberg et Isle of Dogs de Wes Anderson. Et ces deux films, donc, évidemment, que j'attendais beaucoup. Et cette fois-ci, dans ce duel qui n'a pas lieu d'être, mais que je mets de l'avant, c'est vraiment plus le Anderson qui me séduit, qui m'a comblé que le Spielberg. On aura l'occasion d'en reparler. Isle of Dogs, c'est un film d'animation, donc en stop motion, mais qui, en fait, qui est hybride, qui a toutes sortes de techniques. Ça, c'est une des ben, en fait, la technique est juste hallucinante, là, tu sais, comme... Puis c'est aussi parce que c'est un art pratiquement à l'abandon, là, le stop motion, en général. Il y a à peu près que lui, puis... il y a comme Leica Studio là, qui ont fait Kubo and the Two Strings, Caroline. Il y a aussi bon, y a les studios Aardman qui viennent de sortir Early Man, qui nous ont donné Wallace et Gromit. Il y a comme une poignée d'artistes et de studios dans le monde qui ont les moyens financiers, la patience et le talent et la passion pour faire de l'animation stop motion, mais c'est vraiment un art comme qui se perd. Fait que j'ai l'impression que j'ai un petit parti pris nostalgique de juste le fait que ça existe, mais force est de constater que c'est un des films d'animation les plus incroyable au niveau technique qui a jamais été fait, de un. De deux, c'est un film qui est extrêmement audacieux dans ses choix. J'ai l'impression qu'il restera pas longtemps à l'affiche parce que c'est un film qui se passe au Japon. Et dès l'entrée de jeu, il y a une espèce de carton à l'adresse du spectateur qui nous indique que tous les acteurs japonais ne sont pas doublés ni sous-titrés. Ils parlent en japonais. Et les chiens, eux, ont été doublés en anglais. Donc, ça fait vraiment... Il y a vraiment des longs passages où il y a des dialogues dont le personnage principal, c'est un petit garçon, en fait, qui ne sont pas traduits ni doublés. Il y a d'autres fois, par contre, qu'il y a soit un reporter de télé où il y a une élève américaine aussi... qui
va parler en anglais avec un accent, par exemple.
En fait, non, qui vont parler, c'est carrément des Américains, là, tu sais, qui, eux, par contre, vivent au Japon. Donc, ils nous permettent un peu de suivre l'histoire, mais il y a vraiment des moments où tu as des longs dialogues. Et même, même le film commente là-dessus parce qu'il y a des chiens à un moment donné qui essaient de comprendre le petit garçon puis qui ne comprennent pas. Tu sais. Puis là, la meute de chiens se regarde et puis ils se disent ce serait vraiment cool que nous parlions. Si on pouvait parler japonais, tu sais. Donc, mais ça rebute, honnêtement. C'est comme quasiment anti, là, genre public. Là. C'est tu te dis, waouh, il s'est vraiment pas aidé pour essayer de rendre ça accessible. C'est de l'humour. C'est vraiment c'est un peu le Kill Bill de Wes Anderson. Là, c'est comme un peu l'hommage à Wes Anderson au cinéma japonais. Là.
Oui, il dit haut et fort, là, hommage à Kurosawa.
Ouais. Oui, il y a un moment où il y a un fameux plan où ils sont comme un plan de côté, un travelling avec toute la troupe un derrière l'autre qui marche sur un long paysage. Puis là, t'as le thème de Seven Samurai qui part.
Y a-tu un shot où un chien a une main dans sa bouche?
Je pense pas, non, mais.
Parce que c'est classique dans Yojimbo au début.
Oui, là. C'est ça, oui, Yojimbo, je me rappelle plus c'est lequel. Mais non, effectivement, il y a tout plein de clins d'œil comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un ravissement. Le scénario est quand même relativement simple. Puis c'est vraiment c'est dans le micro que ce film-là est intéressant. T'sais, on s'ennuie pas une seule seconde. Il y a toujours des trouvailles. Notamment, comme je te disais, le film est en stop motion, mais des fois, il y a des écrans de télé. On voit, mettons, des studios de nouvelles. Puis là, t'as un plan large avec la caméra qui enregistre le présentateur. Et là, on voit les deux. Donc, on voit l'écran et le présentateur en vrai, entre guillemets. Donc, t'as le présentateur en stop motion et sur l'écran de la caméra, c'est comme un animé japonais. C'est comme un dessin animé. Fait que c'est ça, c'est comme une autre façon de rendre hommage un peu à l'animation du Japon. Oui, c'est ça. Le film est
ça fait jaser, ça, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Il y a une mini-controverse.
Culturelle et tout.
Ouais, puis moi, j'ai de la misère là-dessus parce que le film est beaucoup trop en connaissance de cause pour être de mauvaise foi. T'sais.
Pour être bête, ok.
Ouais, mais c'est comme si. Bon. C'est comme si. Parce que oui, il y a des caricatures, mais tu sais, tous les personnages sont caricaturaux. T'sais. Puis, je veux dire, tu regardes Royal Tenenbaums, c'est pas vrai que les blancs sont comme ça. T'sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ces personnages, en général, sont maniérés, puis sont caricaturés, tout ça. J'ai pas trouvé que c'est offensant envers le Japon. Au contraire, comme Darjeeling Limited, tu sais, oui, il y a des personnages indiens un peu. Cliché, mais en même temps, le film, clairement, c'est un hommage au film de Satyajit Ray, c'est un hommage à tout ce que lui connaît de Bombay, puis connaît de l'univers de l'Inde. Et il l'a écrit d'ailleurs à force de voyager en Inde, il avait le goût déjà de rendre hommage à ce pays-là. Ben là, c'est la même chose pour le Japon, tu sens que ça vient de la bonne place. Fait que pour moi, ça annule pratiquement tout tentative de critique. Ensuite, est-ce que ça veut dire... Sinon, est-ce que ça veut dire que toute personne blanche ne peut écrire que sur la culture blanche? Il y a un peu un danger aussi d'aller dans l'autre
Non, ce
sens,
serait
là.
ce serait dommage d'ailleurs là.
Ouais,
Ouais.
donc...
Parce que là, après ça va où, tu sais? Est-ce que les hommes sont juste obligés d'écrire des personnages d'hommes? Puis est-ce que, tu sais, est-ce que vu que je suis dans la trentaine, je peux juste écrire des gens dans la trentaine? Ça m'a... Non, mais tu comprends, ça devient
Ouais.
absurde quand on pousse la logique dans l'absolu, là, tu sais.
C'est ça,
Fait que,
donc...
tu sais, c'est comme... Je comprends que, tu sais, ça vient avec des responsabilités, puis avec des bémols,
Ouais.
puis tout, mais dans l'absolu, cette logique-là fonctionne pas, donc faut arrêter de juste la brandir automatiquement, là, tu sais.
C'est
Mais
ça,
bon.
surtout quand on est en présence d'un film qui clairement connaît ses classiques, clairement, il y a plein de clins d'œil pour les amateurs de culture japonaise. Puis notamment, toute la trame sonore, elle est incroyable, beaucoup à base de rythme, là, puis de tambour, puis d'instruments japonais. Puis ça, vraiment, ça, c'est une des grandes forces du film, là. Le film, il est rythmé, on s'en est pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est un film que je vais revisiter beaucoup.
Cool,
Au contraire, peut-être de Fantastic Mr. Fox, que j'ai l'impression quand même qu'il était plus adressé à un public plus jeune, j'ai l'impression.
ouais.
Celui-là, clairement, c'est pas pour les jeunes, notamment parce qu'il y a des acteurs japonais qui sont pas traduits, là. Fait que c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, tu sais, je veux dire, on peut le voir comme une métaphore. Ça peut être une métaphore contre le racisme en général, contre le l'Holocauste. Il y a vraiment comme. Il y a plus que. T'sais, si on gratte la surface bonbon, puis cette surface, il y a des vrais thèmes, il y a des vrais personnages, il y a des vraies relations, des vraies problématiques, encore des trucs de père absent, puis de réconciliation masculine. Donc, les ingrédients sont là. Je trouve que c'est fait avec beaucoup de délicatesse, puis on rit beaucoup. On rit du début à la fin. Mais si vraiment le. Si l'esthétique Wes Anderson ne vous plaît pas, si Fantastic Mr. Fox, vous n'avez pas aimé ça, si vous trouvez que ses derniers films, même ses films de fiction, live-action, sont rendus pratiquement de plus en plus comme de l'animation, comme Grand Budapest Hotel, tu as des segments, c'est de l'animation, là, t'sais. Si ça ne vous plaît pas, cette tangente-là, et ça ne sert à rien d'aller voir Isle of Dogs, là, ça ne sera pas pour vous. Donc voilà, alors pour ceux que ça intéresse, attrapez-le avant qu'il quitte l'affiche, et on s'en reparle plus longuement au retour de Rémi.
Ben oui.
Et nous, ben, on va se quitter sur la bande-annonce du film À bout d'Arshad Khan,
Ah oui,
qui
tellement.
prend l'affiche en salle dans les
Ah oui,
Cinéplex.
OMC Forum.
Ben, maintenant, c'est Cinéplex Forum,
Oui, oh,
là. Ouais.
sorry.
Et à Toronto également, à travers le Canada, en fait, le film. Donc ça, c'est super cool. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot et j'étais avec mon collègue.
Pascal Plante avec Podrémy.
The video captures the facade of happiness, but our sorrows remain undocumented. Migration is the hardest thing in the world. That and coming out. I spent a long time struggling for my father's approval. The man who equated being gay with being a drug addict or a murderer. For years I rejected Abu. I questioned his choices. How did my once joyous and cosmopolitan father go from this guy to this guy? I couldn't talk to him about anything personal. Could I love my father and could he love me despite our differences?
Abu never discussed Arshad being gay with me. He always called it his choice of lifestyle.
From my point of view, it's just a rebellious thing. And I always expected him to change himself for the better.
Abu once told me that there are no gays in Pakistan. For years, I was so angry at him for failing to protect me, for failing to nurture my strength to fight back. I just needed to be understood.